Arratsalde honen zuleak. Gure kanpoko mintzaldien saioan segituko dugu duela zonbait aste gura irakanten aurtengo Lugamako mintzaldi bat, mintzaldia Ogeli Trouvé, aurtengo Lugamako gazamad zena, atak mugimenduko lehendakari ordeak, eman duena, merkatua nola bereskuratu titulupean. Nola atera merkatuen menpekotasunetik eta horren diktaduratik, nola ekarri hori jendearen zerbitzurat, hori dauku aipatuko Ogeli Trouvék. Saritza, Michel Berroko irikoen.
Donc le thème de cette soirée, c'est reprendre la main sur les marchés. C'est un thème, je l'ai dit, important, essentiel, qui mobilise l'ensemble de la société, l'ensemble des acteurs. Et on a le sentiment que les marchés nous gouvernent, que c'est les marchés qui mènent le jeu et que, y compris les politiques, pourraient ou sont ou seraient impuissants. Et que les marchés ont, ne seraient pas qu'un outil, mais que les marchés seraient un élément directeur et qu'il faut que chacun s'adapte, comme on dit, aux signaux du marché. Combien de fois ne l'entendons-nous pas sur les questions agricoles. Donc je ne vais pas prolonger plus. Je donne la parole à Ogeli Trouvé et ensuite nous allons débattre, échanger. Chacun pourra apporter son avis et c'est ensemble qu'on va avancer pour voir comment reprendre la main sur les marchés. Alors Ogeli, je te laisse la parole.
Merci Michel et voilà, merci aussi de m'avoir invité. Comme je l'avais dit hier, moi je suis très honorée d'être la marraine de Lugama et je l'avais accepté tout de suite parce que voilà, je suis assez impressionnée par l'engagement collectif qu'il y a ici au Pays Basque. Je crois vraiment voilà, que c'est une richesse énorme hein, ce qu'il y a ici et la résistance qu'il peut y avoir par rapport au modèle dominant qui s'impose en France et en Europe. Donc voilà, pour moi c'était important de venir ici. Alors, il se trouve que, pour la première fois, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est pas grave, j'ai aucune note, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que c'est parfois comme ça qu'on fait les meilleurs débats. Ce que je vous propose, c'est vraiment de faire une demi-heure, pas plus de... Je vais essayer, hein, ce que souvent j'ai tendance à m'étaler. De faire une demi-heure, pas plus de conférences, et puis surtout ensuite d'avoir un débat avec vous sur cette question qui est quand même très très large. Mais donc, et alors, la difficulté toujours dans ce genre de conférence, c'est qu'il y a à la fois des gens très avertis, j'en vois ici, très au courant, et d'autres beaucoup moins au courant. Et donc, je vais essayer d'aller un peu entre les deux. Je voudrais d'abord dire quelques mots sur mon association ATAC. ATAC, vous savez, je vais vraiment en quelques minutes. ATAC, c'est l'association pour une taxe sur les transactions financières et l'aide aux citoyens. C'était en 1998, on s'était créé sur un mot d'ordre qui était désarmer les marchés financiers. Je vais peut-être me mettre debout, non ? Ouais, c'est peut-être mieux. Désarmer les marchés financiers. Et je vais même me mettre là, en fait, puisque de toute façon, je n'ai pas de notes, je n'ai rien. Donc, autant me mettre là. désarmer les marchés financiers et donc taxer la finance, la mettre à contribution pour reverser aux besoins écologiques, sociaux et de développement. Juste pour l'anecdote, à l'époque, on passait pour des révolutionnaires complètement fous, extrême gauchistes et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, notre proposition, elle est reprise par un très grand nombre de chefs d'État et de gouvernement. Elle vient d'être votée par le Parlement européen, comme quoi, à force de conviction, ben les lignes bougent et une idée qui pouvait apparaître comme complètement révolutionnaire peut arriver dans le débat et être une idée qui circule énormément. Je ne dis pas que la bataille est gagnée du tout, hein, parce qu'au-delà des discours, il faudrait aussi que ce soit mis en œuvre concrètement, même si ça a été voté par le Parlement. Vous savez que le Royaume-Uni, par exemple, ou les Pays-Bas sont complètement contre. Donc voilà, la bataille n'est pas gagnée. Mais en tout cas, il y a déjà une victoire du point de vue des idées. Et ça donne espoir, quoi, évidemment, pour plein d'autres choses. Et ce qu'on se dit, nous, à ATAC et voilà, il faut se dire ça dans plein d'endroits et dans tous les engagements collectifs. Hein, c'est que Ben, de la même façon que la taxe sur les transactions financières, peut-être que ce qu'on dit sur aujourd'hui sur il faut socialiser le secteur bancaire, il faut remettre la finance à sa place, par exemple, il faut, alors c'est un peu technique, mais il faut faire en sorte que les banques de dépôt et d'investissement soient séparées. Il faudrait, par exemple, qu'on ait une vraie politique d'harmonisation sociale et fiscale vers le haut en Europe, etc. Toutes ces propositions qu'on fait aujourd'hui pour aller beaucoup plus loin dans le désarmement des marchés financiers et pour une Europe qui soit pas au service de la finance, mais au service des citoyens. Toutes ces propositions-là, on espère que, eh bien, de la même façon que la taxe sur les transactions financières, d'ici 10 ans, ce soit des évidences, quoi, hein, en tout cas des idées qui soient vraiment dans le pot commun. Voilà. Donc c'était un avant-propos. Vous dire aussi qu'à TAC, en fait, on a été créé à l'époque par une quarantaine d'organisations syndicales, associatives, de commerce équitable, écologistes, des journaux, Monde Diplo, Politis, etc. Voilà. Et évidemment, il y avait aussi la Confédération paysanne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, du coup, on a tout ce qu'on porte aussi sur les questions agricoles et alimentaires, on les porte très fortement avec la Confédération paysanne. Et au niveau européen, avec Via Campesina Europe, enfin... Voilà, ECVC, Via Campesina Europe. On a d'ailleurs écrit un bouquin qui doit encore... Mais il faudrait vraiment qu'on l'actualise, mais qui traîne en bas, qui s'appelle « Souveraineté alimentaire, que fait l'Europe ?» qu'on a, et qui est au fond, voilà, qui est sur la table et qu'on a écrit avec la Via Campesina et ATAC, quoi, au niveau européen d'ailleurs, puisqu'on l'a écrit avec un Belge et une Autrichienne, donc vous voyez... vous dire aussi que, voilà, ATAC, c'est des comités locaux. Là, j'ai mis le lien vers le comité local d'attaque Pays Basque. Voilà. Et maintenant, je vais rentrer vraiment dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, je voudrais en rentrer par des anciens. Parce que ce qu'on dit là, évidemment, c'est absolument pas nouveau, mais j'aime bien rappeler que déjà dans les années 70, il y avait un monsieur qui s'appelait Servolin à l'époque, qui était une figure aussi de l'économie, de l'agronomie et de l'économie rurale, et qui disait que l'agriculture allait se faire absorber par le capitalisme, était en train de se faire absorber par le capitalisme, et malheureusement, depuis 40 ans, on a eu encore beaucoup plus que ce qu'il prédisait, et je vais en parler maintenant. On avait aussi un monsieur qui s'appelait René Dumont, qui était un agronome qui est quand même très connu et qui à l'époque déjà disait que l'Afrique était mal partie, qu'on allait avoir vraiment un approfondissement des inégalités au niveau mondial. D'ailleurs, son bouquin est en train d'être réédité, je vous conseille vraiment de le lire. Et tout ce qui nous annonçait en fait dans les années 70 se réalise malheureusement aujourd'hui. Et simplement, je pense que en même temps, il y a des choses extrêmement positives dans le sens où il y a une prise de conscience de ce qui se passe. Il y a beaucoup d'alternatives locales qui se multiplient, qui émergent. Alors bon, moi, je donne toujours l'exemple des AMAP ou d'un tas aujourd'hui d'initiatives de réappropriation des terres partout en Europe et qui montrent que la consommation qui monte sur les produits bio, les signes de qualité, etc., qui montrent que quand même les gens ont envie d'autre chose pour l'alimentation, ont envie d'une autre agriculture pour leur paysage, leur nature, pour l'emploi rural, etc. Et donc, après, c'est comment on arrive à fédérer tout cela, à en faire un levier de transformation globale de notre société et des politiques agricoles, parce que je vais en parler maintenant, les choses se jouent beaucoup à un niveau européen et mondial, et si on ne change pas notamment la politique agricole commune, et si on ne change pas ce qui se passe au niveau mondial, on risque d'avoir en fait un modèle totalement dual, c'est-à-dire quelques pourcents de consommateurs, de citoyens engagés qui auront la chance de consommer bio, en circuit court, etc., et puis tout le reste de la population qui bouffera de la merde. Enfin, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, hein, qui se trame avec quelques régions, peut-être, j'espère, le Pays Basque, qui auront la chance d'avoir une petite agriculture familiale, verte, qui fait marcher aussi le tourisme et compagnie. Bon, et du coup, avec derrière aussi des engagements collectifs, etc. Et puis, malheureusement, la plupart des territoires qui seront... moi, je suis en région parisienne et je travaille aussi à Dijon. Donc, on voit bien ce que c'est, nous, plateau de Langres, etc., c'est-à-dire des paysages d'open field de... à l'horizon, on n'a pas une seule haie, on n'a pas... Et voilà aussi ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire une dualisation totale du territoire, voire comme en Allemagne, des territoires entiers qui subissent la déprise agricole et où il y a la reforestation. Alors on peut se dire c'est bien, sauf que si c'est une reforestation pour juste avoir une chute totale de l'emploi et une dévitalisation totale des zones rurales, ça pose aussi la question. Et puis malheureusement, c'est pas seulement pour la reforestation, c'est surtout parce qu'il y a une expansion des zones urbaines et des zones actives industrielles, etc. Voilà, donc ça c'était vraiment des propos préliminaires et je voudrais arriver donc au sujet maintenant. D'abord, je voudrais faire quelques... Avant de parler vraiment de en quoi aujourd'hui le capitalisme est en train d'absorber et le marché est en train d'absorber, la seule loi du marché absorbe l'agriculture, quelques mots sur la triple crise agricole, c'est-à-dire à la fois écologique, sociale et culturelle à mon avis. Écologique parce que l'agriculture est à la fois... victime et responsable du changement climatique, alors et victime et responsable de dégâts environnementaux très importants, mais je veux parler en particulier du changement climatique. Hein. Alors l'agriculture victime d'abord, quand vous lisez, je ne sais pas si vous avez déjà lu, des rapports du GIEC, du groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, c'est une centaine d'experts internationaux hein, qui font des rapports réguliers pour les négociations climatiques, malheureusement qui ne sont pas assez entendus, et qui montrent bien qu'un des premiers dangers qui pointent, c'est sur l'agriculture. Parce que dans les pays du Sud, par exemple, je prends l'exemple du Bangladesh, qui a des terres, toutes ces terres fertiles sont sur les côtes et sont en train de et sont menacées aujourd'hui, et ça a déjà commencé d'être inondé de façon régulière, voire de façon, enfin tout le temps. Hein, et donc des terres fertiles qui aujourd'hui sont en grande menace de disparaître. C'est ça le changement climatique. Hein. C'est aussi malheureusement avant tout des pays du Sud qui seront touchés, mais vraiment brutalement. Leur potentiel agricole sera touché brutalement. Et c'est assez cynique, c'est-à-dire qu'à la limite, c'est les pays qui aujourd'hui subissent le plus la faim dans le monde qui seront les premières victimes du réchauffement climatique. Alors à la limite, on peut se dire que dans les pays du Nord, il y a certaines zones qui vont en profiter parce qu'il va y avoir un réchauffement qui va pouvoir... Au nord de l'Europe, les pays scandinaves, etc., qui pourront peut-être voir dans quelques régions des améliorations du potentiel agricole, etc. Mais c'est surtout, je pense, le grand danger, c'est de voir que les régions aujourd'hui qui souffrent le plus de la faim dans le monde, qui ont du mal à avoir une agriculture qui nourrit leur population, ce seront ceux-là les plus touchés. Alors, agriculture victime et en même temps responsable du changement climatique, pas toute l'agriculture. Il faut bien voir que sur 1,3 milliard de paysans, il y en a 1 milliard qui n'a pas de mécanisation. Tout est manuel. Hein. Donc il faut bien voir qu'en fait, c'est 300 millions sur 1,3 milliard. Donc il n'y a que 300 millions qui sont mécanisés. Hein. Donc il faut bien voir que l'immense majorité des agriculteurs sur Terre, c'est une toute, toute petite agriculture qui n'a même pas les moyens d'une mécanisation rudimentaire. Et même la moitié n'ayant pas l'attelage. Hein. Voilà, c'est ça la réalité de la paysannerie dans le monde. Donc quand on parle d'une agriculture polluante, en fait, c'est toute petite partie. C'est même 30 millions seulement, qui a à la fois la mécanisation et qui a accès à des intrants et à une sélection des espèces, etc. Donc c'est vraiment 30 millions sur 1,3 milliard qui finalement peut être montré du doigt à cette agriculture à laquelle on peut dire vous êtes responsable du changement climatique et d'un grand nombre de dégâts environnementaux. Donc je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas mettre toute l'agriculture dans le même sac. Et même en France, il est important de ne pas mettre tout le monde dans le même sac quand on parle de l'agriculture polluante. Donc, agriculture victime et responsable de dégâts environnementaux, je passe sur les autres dégâts environnementaux, et surtout agriculture aussi qui aujourd'hui n'est plus capable de nourrir le monde. Alors je voudrais faire là vraiment un point important là-dessus. L'agriculture pourrait nourrir le monde, c'est-à-dire tout ce qu'on nous dit actuellement sur « il faut produire plus », il faut bien comprendre qu'on produit assez aujourd'hui pour nourrir le monde. Il y a assez pour couvrir les besoins théoriques minimaux de chaque personne dans le monde. Seulement, on a un très gros problème d'inégalité mondiale. Donc là, je dois avoir quand même un ou deux graphiques. Alors déjà, sur l'évolution de la faim dans le monde. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que pile au moment où, juste avant que la faim dans le monde, alors ça, c'est en millions, hein, 800 millions sur 6 milliards d'habitants, sous-nutrit. Et juste au moment, juste avant que ça remonte en flèche, ça correspond au 96 sommet mondial de l'alimentation. Vous avez 180 pays à l'ONU, aux Nations Unies, qui s'engagent à faire en sorte que le droit humain fondamental d'être nourri soit respecté partout dans le monde et qu'on aide tous les pays du monde à le faire respecter. Donc ça, c'est pile le moment où vous avez un grand raout aux Nations Unies pour dire « ça y est, la faim dans le monde, c'est notre combat commun ». Bah regardez ce qui s'est passé juste après, comme quoi des fois, quand vous avez... c'est pas parce que vous avez des grands discours et des grands raouts qu'il se passe beaucoup de choses, au contraire, là, vous avez pile à ce moment-là, en fait, une flambée de la faim dans le monde. Et alors, évidemment, le pire étant au moment de la flambée des prix agricoles, hein, c'est 2007-2008. Et après, ça s'est poursuivi pour une raison, c'est que vous avez eu la crise économique. On parle beaucoup des effets de la crise économique en Europe, mais en fait, vous avez eu énormément d'effets aussi dans les pays du Sud les plus pauvres, hein, en particulier. Bon, ensuite, ça s'est un peu, disons, stabilisé, voire ça s'est réduit à nouveau. Et là, je vous avoue qu'on a des très grandes inquiétudes, parce que vous savez que les prix des céréales et des matières premières sont vraiment au taquet en ce moment, c'est-à-dire qu'ils ont reflambé quasiment au niveau de 2007-2008. Alors, on pourra en reparler. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que les biocarburants, les agrocarburants, parce qu'on m'a dit hier qu'il fallait que je fasse attention, ils avaient raison que je ne dise pas bio, mais agrocarburants. Donc, les agrocarburants, notamment, étant un des facteurs très, très importants d'une augmentation progressive, en fait, des prix agricoles. On le reverra, en fait, depuis le début des années 2000, on a vraiment deux problèmes très importants au niveau des prix agricoles. Un, c'est la montée progressive des prix agricoles, parce qu'on a des tensions énormes sur les marchés, notamment des céréales, du maïs, du riz, de matières premières végétales, mais qui a des implications sur, notamment pour les éleveurs, parce que ça augmente énormément les coûts de production. Du coup, ça met des tensions aussi sur tous les marchés de produits animaux. Bref, je passe sur ça, mais en tout cas, voilà, vous avez cette évolution de la faim dans le monde. Et quand je vous disais que c'est un problème d'inégalité mondiale, ici, c'est une carte de la FAO, ça doit être de 2010, vous voyez qu'en fait, nous, on est bien au-dessus de nos besoins théoriques minimaux, en moyenne. Alors, évidemment, il y a une partie de la population, y compris en France, qui est sous-nutrie et sous-alimentée, mais je veux dire, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec ce qui peut se passer en Afrique subsaharienne, où on est à plus d'un tiers de la population sous-nutrie. Quand on dit sous-nutrie, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'alimentation pour vivre une vie normale, pour avoir une activité physique normale. Voilà. Donc, c'est plus d'un tiers de la population dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne qui ne peut pas mener une vie normale parce qu'elle est sous-nutrie. C'est ça aujourd'hui la réalité. Alors souvent on dit oui, il faut leur apporter les OGM, etc. Je veux dire, c'est absolument n'importe quoi si vous mettez un pied dans ces pays-là, puisque la réalité, c'est surtout que vous avez des paysans qui n'ont ils n'ont même pas accès, alors évidemment, à l'attelage d'un animal, mais même à la toute petite, je dirais, même à une... Pardon. Je suis en train de m'en mêler les pinceaux. Je vais retrouver mes mots, c'est pas grave. Bon, bref, ils n'ont pas accès, si vous voulez, au tout petit matériel rudimentaire. Donc, évidemment, quand on dit qu'il faut leur apporter les OGM, etc., je veux dire, c'est complètement hallucinant au vu de la réalité dans ces pays-là. Voilà, problème d'inégalité mondiale aujourd'hui, mais on est aujourd'hui... Et ça, vous pouvez aller sur le site de la FAO, etc. On produit assez pour nourrir toute la planète. Simplement, il y a un problème d'inégalité mondiale. Il y a des régions où on consomme bien plus que nos besoins théoriques minimaux. On gaspille énormément. Bon, là aussi, il y a eu des grands discours depuis un ou deux mois sur le gaspillage, mais on va voir aussi la réalité et ce qui est fait concrètement. On gaspille énormément, mais voilà. Et en tout cas, vous avez par contre des régions dans le monde qui sont bien en dessous de ces besoins théoriques. Donc ça, c'est sur la crise, je dirais, sociale et alimentaire, du point de vue en particulier des pays du Sud. Mais il y a aussi une crise sociale, et notamment dans les pays du Nord. Pourquoi ? Parce qu'on a un modèle agricole qui... Alors, jusque dans les années 70, on pouvait se dire, la logique productiviste voulait que, en gros, on produise toujours plus, toujours moins cher, avec moins de main-d'œuvre. Et comme ça, on disait, on va envoyer la main-d'œuvre vers l'industrie, et en plus, ça va augmenter les revenus agricoles des agriculteurs qui restent en place. Le problème, c'est que, à partir des années 70, vous n'avez plus d'industrie capable d'absorber ni d'autres secteurs capables d'absorber l'emploi. Et la réalité, c'est que depuis les années 70, vous avez un chômage de masse avec une agriculture qui emploie de moins en moins. Vous savez qu'on est passé de 30 à 3% de la population dans l'agriculture. Donc un modèle qui est complètement à contre-temps. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un modèle qui essaye d'économiser la main-d'œuvre alors qu'on a un chômage de masse et qui, par contre, est extrêmement consommateur de ressources naturelles. Alors qu'au contraire, des ressources naturelles, on est en pénurie, que ce soit l'eau, que ce soit alors aussi destructrice de la biodiversité, etc. Donc, si vous voulez, au niveau des facteurs de production, c'est un modèle complètement à contre-temps. Alors que dans un contexte de chômage de masse, on devrait au contraire avoir une agriculture qui favorise l'emploi et qui, par contre, soit la plus économe possible sur les ressources naturelles. Eh bien, nous, on fait le contraire. Voilà. Donc, un modèle agricole complètement à contre-temps par rapport au contexte actuel. Et le problème aussi, c'est qu'on est en train d'imposer ce modèle agricole à des pays, et c'est ça le plus grave aujourd'hui, parce qu'à la limite, on a, excusez-moi pour les paysans français qui sont dans la salle aujourd'hui, mais on a plus que 3%, que 3% de paysans dans la population active en France. Mais le problème, c'est qu'on est en train d'appliquer le même modèle avec la même politique agricole commune qui a amené à ça depuis les années 50. Cette politique agricole et ce modèle-là est en train d'être imposé à des pays comme la Roumanie. Vous avez plus de 16% de la population qui sont dans l'agriculture. 20% en Roumanie. En plus, avec une agriculture de semi ou d'autosubsistance totale, c'est-à-dire des familles qui ne vivent que grâce à l'agriculture et qui autoconsomment tous leurs produits. Et ce sont à partir du moment où vous détruisez cette agriculture-là, vous allez former d'énormes poches, et c'est ce qui se passe actuellement, d'énormes poches de pauvreté dans les espaces urbains où ces ruraux-là vont se réfugier. Et c'est ce qui s'est passé en Afrique, et c'est comme ça que se sont formés peu à peu les immenses bidonvilles, ou en Asie, etc. Et c'est en train de se passer aujourd'hui à nos portes, et même à l'intérieur de nos portes, puisque c'est à l'intérieur de l'Union européenne. On est en train de former d'immenses bidonvilles et d'immenses poches de pauvreté en tuant cette agriculture. Et je le redis, c'est 20% de la population. Et même quand on parle de la Grèce aujourd'hui qui est en crise, ou du Portugal, vous voyez que c'est 10-15% de la population qui sont encore dans l'agriculture. Alors quoi, on veut leur imposer un modèle à 3% d'agriculteurs dans la population active et encore nourrir davantage le chômage alors qu'il est déjà à 25% en Espagne ou à 20% au Portugal et à 30% aujourd'hui. Enfin, il y a certains chiffres qui annoncent 30% en Grèce. Donc c'est ça qui est aujourd'hui, vous voyez, l'enjeu qu'il y a aujourd'hui autour de l'agriculture en termes d'emploi en Europe. Quand on parle de crise sociale en Europe et de plans d'austérité sociale, il faut absolument qu'on replace l'agriculture aussi dans ce contexte-là et notamment en termes d'emploi. Voilà, et je voudrais finir sur ces avant-propos sur la crise de l'agriculture, du modèle agricole actuel, parce que c'est aussi une crise très grave du point de vue culturel. Et ça, ça me semble très important à souligner, dans le sens où les consommateurs savent de moins en moins les conditions dans lesquelles on produit leurs aliments. Quand vous mangez... quand vous achetez un produit animal qui a été nourri au soja, lui-même importé d'Argentine ou du Brésil dans des conditions de monoculture et d'exploitation énormes, avec des conditions environnementales et sociales et de travail abominables, avec des accaparements de terre, etc. Voilà, ça, le consommateur ne le sait pas, puisqu'il ne connaît pas les conditions dans lesquelles ont été produits leurs aliments. Et c'est pour ça que je pense vraiment que le mot d'ordre ou la demande de relocalisation des activités agricoles, à mon avis, le premier des arguments, il n'est pas tant sur... alors évidemment, ça rentre, c'est important aussi, les coûts de transport, le coût écologique du transport, etc. Mais je pense que le premier argument, c'est vraiment que les consommateurs puissent savoir dans quelles conditions, puissent se rendre compte des conditions dans lesquelles on produit leurs aliments. Et à partir de là, vous pourrez avoir une prise de conscience... des citoyens, des consommateurs. Donc, vraiment, la relocalisation des activités, ça me semble un mot d'ordre central pour, je dirais, le mouvement, tout le mouvement paysan alternatif qui est en train de se former, enfin, qui existe depuis longtemps, mais qui est en train de se former à nouveau. Voilà, donc ça, c'était vraiment quelques mots sur la crise actuelle. Alors, maintenant, quelques mots sur l'agriculture absorbée par le capitalisme, ou en fait comment l'agriculture est devenue aux mains du marché. Alors là aussi, je m'excuse pour tous ceux qui sont absolument au courant de tout ça, mais je m'adresse plus aux moins initiés, je dirais, du sujet. Comment ça s'est passé? Quel a été le processus qui fait que l'agriculture a été autant dominée par les marchés? L'agriculture, jusque dans les années... Alors, en tout cas, pour les pays du Nord, j'arriverai après aux pays du Sud, pour les pays du Nord, on va dire, l'agriculture était vraiment un secteur à part qu'on ne voulait pas libéraliser et mettre aux mains du marché, si vous voulez, ou en tout cas pas de la même façon que l'industrie, les services, etc. Et c'est ce qui fait que dans le GATT, qui est l'ancêtre de l'OMC, jusque dans les années 80, on a dit on ne met pas l'agriculture dans les négociations commerciales de l'OMC et on ne libéralise pas les marchés agricoles, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les pays à ouvrir leurs frontières. Et on leur permet d'avoir des politiques agricoles fortes, de régulation des prix, des productions, etc. Ce qui fait que jusque dans les années 90, on a eu une politique agricole commune très forte, mais même chose aux États-Unis et partout dans les pays riches ou du Nord, on a eu des politiques agricoles très fortes, avec des prix qui étaient fixés, alors après avec des négociations interminables au niveau européen sur tel prix, sur tel produit, et on avait des prix fixés par produit, qui faisait qu'il y avait un prix garanti minimum assez élevé pour les agriculteurs. À côté de ça, petit à petit, on a aussi mis, parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait énormément de surproduction sur les marchés, on a mis à côté de ça en place petit à petit des outils qui ont permis de réguler les volumes de production, de dire aux pays et aux exploitations agricoles, vous ne produisez pas plus que ça. Ça a été le cas notamment sur le lait, avec les quotas laitiers. On a dit aux exploitations, vous ne produirez pas plus que ça. C'est ce qui fait qu'on a réussi, en France en tout cas, à avoir des exploitations laitières. Alors certes, il y a eu une restructuration, il y a plein de critiques à faire aux quotas laitiers, mais c'est ce qui a permis quand même d'avoir un tissu laitier à peu près sur toute la France, avec, contrairement à des pays comme les Pays-Bas ou d'autres, avec quand même un tissu relativement homogène et pas tout concentré dans les régions les plus productives. Aux Pays-Bas ou au Danemark, par exemple, qui ont en fait dérégulé les quotas laitiers depuis maintenant assez longtemps, vous avez quasiment tout le lait s'est concentré autour des grands ports, ça coûte moins cher. Ça fait qu'on passe à un modèle non plus de prairies, mais un modèle de robot d'alimentation totalement hors sol, robots de traite, etc., totalement mécanisés, intensifiés, etc. Donc et tout va autour des grands ports, avec d'énormes problèmes d'effluents d'élevage. D'ailleurs, vous savez que les Pays-Bas ont une dérogation sur la directive nitrate par rapport aux autres pays, parce qu'ils n'y arrivent pas à respecter la directive nitrate, mais à cause des choix qu'ils ont fait en termes de politique agricole. Hein. Donc, énorme problème d'effluents d'élevage. Par contre, vous avez d'autres zones rurales qui ont été désertifiées. Voilà, c'est ça quand on dérégule, hein, parce que j'y arriverai tout à l'heure, c'est ça qui est en train de se passer malheureusement maintenant aussi en France. Hein. Mais voilà, on a clairement, par exemple, aux Pays-Bas et au Danemark, on a aujourd'hui l'exemple d'une dérégulation totale dans un marché. Bon, à l'époque, donc, on a mis des prix fixés, donc avant les années 90, quand l'OMC ne venait pas nous embêter et que l'Union européenne n'était pas encore complètement néolibérale, bon, on avait quand même des régulations très fortes de prix, de production, etc. Bon. Et des protections fortes aux frontières. Bon, vous aviez aussi, il y avait des grosses critiques à faire. Hein. On avait des grosses subventions aux exportations qui permettaient d'exporter parce qu'en fait, on surproduisait énormément. Donc, on payait à mort, on permettait aux agriculteurs d'exporter à des prix bien en dessous des prix européens, hein, d'exporter à des prix défiant toute concurrence, notamment dans les pays du Sud, ce qui a laminé totalement leur agriculture. Donc, je ne dis pas que c'est un modèle à reproduire totalement. Simplement, ça montre qu'à une époque, on a été capable de très fortement réguler au niveau européen à travers la politique agricole commune. Mais, années 80, alors qu'est-ce que c'est les années 80, 79 moi, j'ai toujours, c'est mon année de naissance, je suis née avec Margaret Thatcher et Reagan, puisque c'est l'arrivée de Thatcher et Reagan. Voilà. Et donc Thatcher et Reagan arrivent, c'est aussi vraiment l'éclosion, enfin la victoire, parce qu'en fait ça faisait un moment qu'ils travaillaient, mais les néolibéraux type Friedman, toutes les sociétés néolibérales savantes, etc., qui ont travaillé depuis des dizaines d'années pour s'imposer, arrivent au pouvoir avec Thatcher et Reagan, hein, qui sont vraiment leur porte-drapeau. Et donc on arrive dans une période néolibérale, vraiment au cœur de la période néolibérale. au début de la période néolibérale, et puis l'agriculture n'y échappe pas, elle arrive dans les négociations à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Hein, c'était le GATT, ça devient l'OMC en 86. Et à l'OMC, eh bien, on va avoir des négociations, et en 94, un accord, qui est toujours en place aujourd'hui, hein, un accord sur l'agriculture, très important, qui va dire à tous les pays, en tout cas tous les pays, sauf les pays les moins avancés, mais en tout cas tous les pays développés, dits développés, on va leur dire, il faut absolument libéraliser votre marché agricole, vous ne devez plus intervenir sur les prix, et petit à petit, ce qu'il faut, alors c'est la fameuse boîte verte de l'OMC, la seule chose bien à faire, et que vous pouvez faire autant que vous voulez, c'est les fameuses aides de la boîte verte, c'est-à-dire des aides qui ne distordent pas les échanges. C'est quoi ? C'est des aides dites, ce qu'on appelle nous, découplées. C'est des aides aujourd'hui à l'hectare. C'est comme ça qu'aujourd'hui, avec l'OMC et toute la complicité de l'Union européenne, on est arrivé à un découplage des aides agricoles. Donc ce qu'on a fait, du coup, ce que nous a demandé l'OMC, ce qu'on a fait avec la pression de l'OMC, c'est qu'en 92, il y a une énorme réforme de la PAC. Toutes nos régulations de prix, on a dit maintenant, on arrête de soutenir les prix, de protéger énormément les frontières, etc. On va aligner les prix européens sur les prix mondiaux. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui... Alors, je vais vous montrer une courbe claire et nette sur... j'ai pas celle du lait, c'est dommage. Bon, j'ai oublié de la mettre. En fait, on voit... Bon, regardez les prix mondiaux. Hein. En fait, jusque dans les périodes ici... En fait, bon, on le voit pas ici, mais c'est super stable jusqu'ici. Et regardez comme ça va commencer à totalement partir en vrille. Et voilà, là, c'est les prix aujourd'hui. Si vous voulez, avec la dérégulation des prix et l'alignement de tous les prix intérieurs, notamment européens, aux États-Unis, etc., sur les prix mondiaux, en fait, tout ça a apporté énormément d'instabilité sur les prix mondiaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des prix mondiaux qui sont extrêmement volatiles, très élevés et extrêmement volatiles. Enfin, très élevé sur les céréales, ça dépend sur quel produit, mais en tout cas, vous avez des prix surtout extrêmement volatiles. Et c'est ça, du coup, la nouvelle réalité pour les paysans. Et ça, il faut le comprendre, parce que c'est très important. Pour le paysan, ça change tout. C'est-à-dire qu'il avait des prix garantis qui lui permettaient d'avoir une certitude sur l'avenir, de faire des projets. Aujourd'hui, la réalité, c'est des prix qui peuvent varier énormément d'un mois ou d'une année à l'autre. Et même, je peux vous dire que les spécialistes ne savent jamais ce qui va arriver le mois prochain. C'est ça aujourd'hui la réalité agricole, c'est-à-dire que vous avez des prix extrêmement volatiles et donc qui aussi pénalisent l'ensemble de l'agriculture, des industries agroalimentaires, de toutes les filières agroalimentaires. Parce que les banques veulent de moins en moins prêter, quand vous savez qu'un mois après, vous pouvez avoir une chute totale des prix, hein, et que ce soit aux agriculteurs, que ce soit aux industries agroalimentaires, etc. Donc en plus, c'est un non-sens économique, si vous voulez. Donc on pourrait aussi utiliser les arguments sociaux, environnementaux, tout ça, mais même moi quand je m'adresse ça m'arrive très peu, mais ça m'arrive des fois de m'adresser au syndicalisme agricole majoritaire, ouais, je leur dis c'est un non-sens, y compris en termes purement économiques, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus de situation de certitude et on est complètement aligné sur les prix mondiaux. Alors, donc sur la PAC, qu'est-ce que ça a donné ? On a aligné sur les prix mondiaux, mais on a dit on va vous compenser avec des aides qui s'appelaient les montants compensatoires. Et petit à petit, l'OMC, avec la pression de l'OMC, ça c'est les fameuses boîtes de l'OMC, il fallait arriver de là à là. Donc ça c'est mal, ça c'est un peu bien, et ça c'est très bien pour l'OMC. En fait, il fallait arriver de là à là. Ça c'est les régulations de prix, tout ce qu'on faisait en fait, tout ce qu'on faisait avant. C'est aussi les quotas laitiers sont là en fait. Hein. Tout ce qu'on faisait avant 92. Et il fallait arriver petit à petit à ici, ça c'est très bien pour l'OMC, c'est des aides découplées. Des aides, alors c'est ce que touchent aujourd'hui les agriculteurs. Le fait qu'on ait aligné les prix européens sur les prix mondiaux, qui souvent sont inférieurs tout de même aux coûts de production, on vient les compenser avec des aides découplées à l'hectare. C'est-à-dire qu'on verse par hectare un paiement. Alors aujourd'hui, je passe sur le technique, mais c'est sur référence historique. Ça veut dire que c'est en fonction de ce qui touchait pendant 3 ans au début des années 2000. Et on va essayer aujourd'hui, c'est ce que demande l'Europe, d'homogénéiser, si vous voulez, d'avoir le même montant tout le monde par hectare. Et c'est un système absolument absurde. Parce que l'OMC dit que ça n'agit pas sur les échanges, c'est faux. C'est équivalent à 100% du revenu agricole. Allez expliquer aux pays du Sud que, en fait, nos aides n'agissent absolument pas sur les marchés. C'est 100% du revenu agricole français et 50% au niveau européen. C'est 140% du revenu en grande culture, c'est 140% du revenu des agriculteurs en grande culture. C'est-à-dire que vous enlevez les aides, vous avez un revenu négatif en grande culture. Voilà. Et ça, l'OMC explique que non, il n'y a pas de souci, ça ne s'appelle pas du dumping, ça n'agit pas sur, ça ne distord pas les échanges, il n'y a aucun souci. Ça, pour l'OMC, c'est du vrai néolibéralisme, c'est pas du tout de l'intervention de l'État, pas de souci, c'est que 140% du revenu des agriculteurs en grande culture. Donc vous voyez à quel point, je veux dire, le néolibéralisme peut arriver à des idées complètement absurdes. Et des gens qui sont encore capables de soutenir que c'est tout à fait logique. Hein, je peux vous dire que j'ai fait un débat avec Pascal Lamy il y a 2 ans. Il m'explique que tout cela est absolument formidable et bon pour l'humanité, et bon pour l'environnement, bon pour les pays du Sud et tout ce que vous voulez. Et je peux vous le dire qu'il le dit franchement et clairement. Voilà. Donc on arrive à un système complètement absurde qui s'appelle les aides découplées. Et c'est un gros problème parce que c'est en train de tuer la légitimité de la PAC. Allez expliquer aux gens. Ça vous coûte 50 milliards au niveau européen, ça coûte 50 milliards par an, c'est 40% du budget européen. Ce sont des aides versées, quel que soit le niveau des prix. Alors, je ne sais pas s'il y a des céréaliers dans la salle. Non ? Est-ce qu'il y a des céréaliers dans la salle ? Non, ouais. En général, je me fais des ennemis après ce que je vais vous dire. Donc, en ce moment, les céréaliers se font vraiment Alors, c'est surtout des hommes, c'est vrai, mais il y a des femmes aussi. Alors, donc, je m'excuse de l'expression. Ils se font des couilles en or, quoi. Ça, c'est... C'est un jackpot actuellement, c'est le jackpot. Hein. Ils ont des prix au taquet, à 250 euros la tonne, je crois, actuellement, avec des subventions qui ont été calculées plutôt autour, à l'époque, en 92, autour de 150 euros la tonne. On est monté à 100, je pense à l'époque, ça devait être 150, un truc comme ça. Même pas, oui, 140, je crois. Hein. Aujourd'hui, on est à 250, ils ont toujours les mêmes aides. Voilà. Et c'est le gros jackpot. Hein. Je peux vous dire qu'en ce moment, ça y va, hein, les achats de maisons secondaires et tout ça par les céréaliers. Hein. Et à côté, vous avez des éleveurs. Alors, je dis toujours que les éleveurs sont bêtes d'être le syndicat agricole majoritaire, je ne comprends pas. Les éleveurs, j'espère qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. De toute façon, vous n'oserez pas me le dire, du coup. Mais... Non, c'est pas qu'ils sont. Mais non, après il y a tout un. Je suis un peu. Non, il faut pas dire ça parce que en même temps il y a énormément de contradictions dans le syndicalisme agricole majoritaire. Il n'y a pas les mêmes positions entre les fédérations. Mais en tout cas, ce qui est absolument ahurissant aujourd'hui, c'est que les céréaliers se font un énorme jackpot. Et les éleveurs ont la corde au cou parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez des prix des céréales au taquet ? Vous avez des prix de l'alimentation au taquet et des coûts de production au taquet. Et en plus, les éleveurs ne touchent pas plus de primes puisque les primes sont découplées et qu'elles ne doivent pas varier en fonction des prix. Donc voilà comment vous avez des aides qui sont soit trop fortes parce que les prix sont trop élevés, soit trop faibles, c'est le cas de l'élevage, parce qu'il y a des coûts de production extrêmement élevés, que les prix ne sont pas non plus très élevés, etc. Voilà comment vous pouvez avoir, si vous voulez, une absurdité totale au niveau de ce découplage des aides. C'est pour ça que je dis, on a beau discuter aujourd'hui sur des petits trucs, des bouts de grâce sur la distribution des aides, c'est très important actuellement, mais au fond, si on ne règle pas ce problème du découplage, si on reste avec des aides découplées, je suis certaine que dans 10-15 ans, il n'y aura plus de politique agricole commune. Parce qu'il n'y aura pas de légitimité des aides et que le contribuable ne voudra plus payer pour des aides qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas des aides aux revenus, puisque ça ne varie pas en fonction des prix. Et alors, ce qui est absolument formidable, c'est que nous, dans l'Union européenne, on continue comme ça. Mais aux États-Unis, ils ont fait la même chose que nous dans les années 90. Alors j'espère que c'est parce qu'on a 10 ans ou 15 ans de retard et que peut-être qu'on va faire comme eux maintenant. Mais dans les années 90, eux, ils ont découplé 10 ans avant nous, parce que nous, on l'a fait en 2003. Eux, ils ont découplé 10 ans avant nous. Et ils ont eu une catastrophe au niveau... Les prix ont chuté, ils se sont rendus compte de leur bêtise d'avoir découplé. Ils sont revenus à des aides complètement couplées. Et même plus, aujourd'hui, ils sont en train de revenir à de la vraie régulation. Ils ont des aides qui varient en fonction des coûts de production et des prix de production. Donc, c'est des vraies aides aux revenus, ça s'appelle des paiements contracycliques. Donc, les États-Unis sont en train de re-réguler à mort. Je ne dis pas que c'est un exemple, hein, parce que leurs aides sont encore peut-être plus inégalitaires que les nôtres, encore plus en faveur des gros producteurs, etc. Mais au moins, ils ont compris l'intérêt de la régulation. Et quand on leur parle, je vous assure, on a parlé avec l'USDA, avec le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, qui nous dit, mais nous, l'OMC, ça nous passe au-dessus de la tête. Alors évidemment, alors dans l'Union européenne, moi quand je discute par un peu avec, enfin là, quand je dis, quand on dit, alors c'était le cas de Dufy et moi, on était allé faire une consultation publique à la Commission, un gros raout à la Commission européenne, en disant qu'il faudrait peut-être remettre en cause notre fidélité au principe de l'OMC. Et le commissaire et son cabinet nous répondent, mais non, mais on est obligé. Alors comment ça se fait que les États-Unis ne sont pas obligés? Comment ça se fait qu'il y a un tas de pays qui sont en train de re-réguler? Hein, même en Amérique latine, hein, y a un tas de pays comme le Brésil qui sont en train de re-réguler leur marché agricole en partie. Hein, donc voilà, c'est pas un mystère, mais c'est vraiment un énorme problème hein, que cette prégnance vraiment extrêmement forte de l'idéologie néolibérale au niveau européen. Alors je dirais que c'est pas que le problème de l'idéologie néolibérale au niveau européen, c'est aussi, et c'est là que c'est lié à la question européenne, c'est aussi qu'on n'a plus une Union européenne capable d'avoir en commun des objectifs sociaux et environnementaux qui dépassent la question économique, quoi. On n'est plus capable d'avoir ensemble une vision du modèle agricole, d'un modèle agricole, comme il y a pu y avoir dans les années 50, si vous voulez. Et donc, ça pose le problème de qu'est-ce qu'on veut comme Europe et d'une refondation démocratique, solidaire, écologique de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, on a, si vous voulez, transféré les pouvoirs au niveau européen, ce qui nous a permis d'avoir une politique agricole commune forte, etc. Et je pense qu'il faut arriver à ce niveau-là pour réguler certains marchés. Mais on est allé tellement loin dans l'idéologie néolibérale et en faisant de l'Europe uniquement un espace de libre-échange, qu'on n'est plus capable, aujourd'hui, dans des temps de crise agricole ou de crise économique, d'avoir une réelle politique qui résout les problèmes au niveau européen. Et donc la PAC, qui est peut-être le ciment politique de l'Union européenne, parce que c'était la seule politique de régulation de marché forte au niveau européen, quand vous avez une Union européenne qui est en train d'exploser en vol, ben forcément, vous avez une PAC qui explose en vol aussi. Donc je dirais que ce n'est pas seulement l'idéologie néolibérale, une question de rapport de force entre libéraux et non-libéraux au niveau européen. C'est, je pense, le projet européen qui est en question. Quand on parle de PAC, on est obligé de se poser, à mon avis, la question aussi de la trajectoire plus générale de l'Union européenne. Voilà. Mais bon, pour revenir à mes moutons, là, sur l'OMC, donc... Je vous disais, donc accord sur l'agriculture en 94, et ensuite vous avez donc on impose, si vous voulez, des libéralisations de marché un peu partout, dont les États-Unis, hein, c'est début des années 90, donc 92 réforme de la PAC en Europe, qui prépare l'accord sur l'agriculture. Donc on se met sur les starting blocks pour être bien avec les négociations de l'OMC. Les États-Unis font pareil, sauf que eux, dès 5 ans après, ils vont revenir sur leur décision. Nous, on ne va jamais revenir dessus. Ensuite, donc le cycle de négociation se conclut avec ça. Et on reprend un nouveau cycle de négociation en 2001, qui s'appelle le cycle de Doha, qui n'est toujours pas terminé. Et c'est là que je dis qu'on est c'est faux quand on dit que l'OMC nous oblige à continuer à libéraliser. C'est que depuis 2001, on n'a pas de conclusion du cycle de négociation et on n'est pas prêt d'en avoir, hein, je peux vous le dire, hein, y compris quand vous discutez avec les gens dans les couloirs. On n'est pas prêt d'avoir une conclusion du cycle de négociation à l'OMC. Et donc, on a beau avoir multiplié les conférences ministérielles aux grandes dames de Pascal Lamy. Rien ne se passe depuis 2001, tout simplement parce qu'il y a des pays comme les États-Unis ou comme l'Inde, qui est monté au créneau en 2008 pour refuser un nouvel accord, qui ne veulent plus libéraliser leur marché agricole, tout simplement. Donc c'est faux de dire qu'aujourd'hui, l'OMC nous contraint. Par contre, et ça il faut le noter, c'est que par contre, il y a un nouveau danger, hein, et parce qu'il y a des nouvelles formes de la libéralisation des marchés, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, ce qu'on appelle les accords de libre-échange bilatéraux. José Bové l'a évoqué hier, la multiplication des accords de libre-échange bilatéraux, c'est-à-dire que maintenant que les pays ne sont plus capables de libéraliser à un niveau multilatéral, c'est-à-dire avec les 150 pays de l'OMC, eh bien ils vont le faire en face à face. Et pour les pays riches, c'est vachement mieux. Parce que quand vous négociez en face à face, par exemple, avec les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, et quand vous leur dites « Ah, bah, votre aide au développement, on va la continuer que si vous signez des accords de libre-échange, c'est vachement plus facile que d'avoir... Parce que le problème pour les pays riches, c'est que dans le cadre de l'OMC, les pays du Sud avaient commencé, et un certain nombre de pays du Sud avaient commencé à faire des coalitions. Et alors, du coup, on n'arrivait plus à avancer en fonction des seuls intérêts des pays riches. Alors, comme ça nous embête, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On multiplie les accords de libre-échange bilatéraux. Aujourd'hui, l'Union européenne est la championne des accords de bilatéraux. Je crois qu'elle en est à peu près 200 accords en cours ou passés. Donc, elle a quasiment couvert toute la planète. En ce moment, on se prépare un accord avec les États-Unis. Comme ça, on aura vraiment boucler la boucle. Et les États-Unis font pareil de leur côté. Donc, on est en train de couvrir quasiment toute la planète d'accords de libre-échange bilatéraux avec, là aussi, des libéralisations de marché, de biens, de services et de capitaux, et notamment libéralisation de la finance en temps de crise économique liée à la libéralisation financière. C'est vraiment génial, puisqu'on est en train de libéraliser leurs marchés financiers, notamment. Parce que vous savez, on a des grandes banques qui n'attendent que ça. On a des grandes multinationales de services qui n'attendent que ça, etc. Donc il y a aujourd'hui les accords de libre-échange. Mais ça pose un gros problème pour nous, parce qu'à la limite, j'allais dire, comme altermondialiste, c'était plus simple, entre guillemets, c'était plus simple de s'opposer à l'OMC. Je veux dire, il y avait un adversaire, on savait où il était, où ça en était. Même si c'est extrêmement compliqué, les négociations à l'OMC, on avait un adversaire. Aujourd'hui, on a 200 accords auxquels il faut s'opposer, avec plein de pays différents. Lequel faut-il choisir pour s'opposer ? Enfin, je veux dire, ça nous complique énormément la tâche. C'est ça aussi qu'il faut voir. En termes de mobilisation, je vous assure que c'est quand même pas simple d'appeler à une mobilisation contre les accords de partenariat économique avec les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Hein, donc voilà, on a aussi ce problème-là, nous, de notre côté. C'est-à-dire que la libéralisation du commerce, elle avance toujours. Mais nous, on a des grosses difficultés à mobiliser face à ça. Et évidemment, dans les accords de libre-échange bilatéraux, ben, vous avez notamment l'agriculture qui est dans le petit paquet. Notamment en ce moment, on a des discussions avec le Maghreb. Et je peux vous dire que l'agriculture est en bonne place dans l'accord de libéralisation qui est en train de se négocier. Voilà, donc pour vous dire que ce n'est pas fini tout de même, même si l'OMC piétine, en fait, on a trouvé un autre biais. Enfin, les libéraux ont trouvé un autre biais via les accords de libre-échange bilatéraux. Alors, je vais finir sur, pour ne pas être trop long. Oui, alors non, simplement, libéralisation des marchés agricoles. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que, notamment les grandes gagnantes de tout ça, j'ai envie de dire, c'est notamment la grande distribution et la grande transformation. Alors, je vais parler de la grande transformation. Ça, c'est un acteur dont j'aime bien parler. Mais en quoi tout ça les a arrangés ? Jusque dans les années 90, ils sont contents, ils sont protégés, ils ne sont pas encore très forts au niveau mondial, et ils sont protégés, leurs marchés sont protégés, et ils arrivent à se développer avec une protection des frontières. Voilà. C'est ce qu'on appelle la protection des industries naissantes. Dans les années 90, nos industries agroalimentaires, je prends au hasard Danone, Lactalis, ou genre, bon, ils sont bien en place. Qu'est-ce qu'on fait ? On libéralise les marchés, on leur permet d'avoir des prix beaucoup plus faibles, les prix mondiaux. Donc ils peuvent acheter en Europe à des prix beaucoup plus faibles leur approvisionnement. Ils peuvent s'approvisionner beaucoup plus facilement à l'extérieur, aller acheter à l'extérieur. Et en plus, ils peuvent dire aux agriculteurs de France ou d'Allemagne, etc., attention, si vous n'êtes pas gentils, on va aller importer de l'extérieur nos approvisionnements. Hein ? Et puis, alors ça, c'est la dernière étape. Ils peuvent y compris délocaliser leurs outils de transformation, ce qui est le cas de Doux, hein, puisqu'on parle beaucoup de Doux. Voilà. On peut aller y compris jusqu'à la délocalisation des... Alors, pour l'instant, ça reste... Alors, moi, je connais bien le secteur du lait, ça reste assez marginal. Bon, c'est vrai que Danone a quand même quelques exploitations de 3 000, 9 000 vaches en Arabie Saoudite ou en Amérique latine, etc., mais ça reste marginal. Mais voilà, hein, ça peut tout à fait être un nouveau mouvement qui se poursuit. Et je vais vous donner un graphique qui montre aussi en quoi... Il y a eu quand même, à un moment donné, un problème et une captation des richesses. Regardez, ça, c'est les prix payés aux producteurs depuis 1978. Donc, c'est à l'indice 100. Ça veut dire que bah, ça a baissé de quasiment 50%. Donc, ça a été divisé par deux depuis 1978, les prix payés aux producteurs. Hein, c'est ramené au pouvoir d'achat. Hein. Et regardez sur les prix payés par les consommateurs... C'est quand même un problème, parce que ça a baissé de 10%. Bon. Donc évidemment, là, vous avez entre les deux une marge qui a été ponctionnée par, évidemment, l'aval. Donc c'est la grande transformation et la grande distribution. Quand vous leur dites ça, ils vous disent, si c'est la grande transformation, vous dites c'est la faute de la grande distribution, et vice-versa. Ils vous disent aussi, vous comprenez, c'est des produits de plus en plus transformés. Voilà, donc c'est normal qu'on nous paye plus, enfin qu'on prélève plus de marge. Mais le fait est qu'ils ont prélevé une marge énorme depuis 30-40 ans par rapport et sur le dos des consommateurs et des producteurs. Ceci étant lié, évidemment, regardez, ça, c'est la chaîne agroalimentaire en Europe. Alors ça, c'est Grieving qui a fait... Bon, c'est, bref, c'est un économiste qui a schématisé ça. Sur l'Union européenne, sur l'Europe, c'était l'Europe à 12 qui a fait ça. 160 millions de consommateurs, 3 200 000 producteurs, 110 centrales d'achat, dont 40% des achats qui passent par 10 centrales d'achat. Vous avez compris comment... Je vais m'arrêter. Vous avez compris comment, en fait, eh bien, ils ont le pouvoir. Il y a 10 centrales d'achat qui font 40% des achats. C'est comme ça que vous arrivez à maîtriser totalement votre filière agroalimentaire et à faire pression sur les prix. Voilà, pour finir là-dessus, on pourra revenir dans le débat. Je pourrais passer 3 heures dessus, mais je ne vais pas le faire. Sur deux mouvements, je dirais, qui approfondissent la crise, la mainmise du marché sur l'agriculture. C'est un, la financiarisation avec des spéculations, disons, pas nouvelles, mais en tout cas nouvellement importantes depuis le début des années 2000, en particulier sur ce qu'on appelle les marchés à terme agricoles, c'est-à-dire des marchés financiers reliés à des produits alimentaires et qui joue sur les prix des produits alimentaires. Je pourrais revenir là-dessus si vous avez des questions. C'est un de mes dadas. Bon, voilà. Et deuxième, évidemment, mouvement important de mainmise des marchés sur l'agriculture, c'est un mouvement, pas nouveau, pareil, mais qui a une nouvelle ampleur depuis quelques années, c'est le mouvement d'accaparement des terres, soit par des pays riches, qui ont des réserves monétaires, type l'Arabie Saoudite, avant la Libye, etc. Bon. Soit par des négociants privés, et y compris par exemple des céréaliers français qui achètent beaucoup de terres en Ukraine, en Roumanie, etc. Voilà. Notamment grâce à leurs aides. Vous voyez, la boucle est bouclée. voilà, ça, c'est deux approfondissements, je dirais. Et en même temps, on voit des tentatives, comme on a eu la crise de 2007-2008, la flambée des prix, on voit bien des tentatives en même temps de redorer le modèle par les néolibéraux. Alors, ils vous disent que... Alors, ils essayent de verdir. Alors, je passe là-dessus, mais en ce moment, au niveau de la réforme de la PAC, vous avez tout un discours autour du verdissement, le développement rural, le second pilier de la PAC. Enfin, voilà, je pourrais revenir là-dessus aussi, si vous voulez. Disons ce qu'on appelle le greening. C'est vraiment le terme, le greening, le wash greening, donc le lavage en vert, si vous voulez, le verdissement de ce qui est en train de se passer, voilà, avec, à mon avis, des mesures relativement marginales et qui ne remettent pas du tout en cause le problème de fond, de la libéralisation des marchés, qui au fond, est en train de mettre en concurrence les agricultures et de pousser tout le monde à des modèles qui ne respectent pas la nature et ne respectent pas le travail. Et deuxième façon d'essayer de redorer le blason, c'est en disant que, écoutez, il faut absolument nourrir le monde, il y a la faim dans le monde et il faut continuer à produire et encore plus, et avec un discours quasiment altruiste, de dire poussons à fond à nouveau la production et le productivisme pour nourrir le monde. Alors, l'ex-président de mon institution, l'INRA, est assez spécialiste sur le thème, puisque je l'ai entendu récemment une émission face à Ziegler, où il avait un discours absolument hallucinant là-dessus. Mon institution étant malheureusement assez dominée par cette idée-là. L'INRA, je parle. Hein. Voilà. Et pour finir, je voulais parler des alternatives et je finirai 2 minutes là-dessus. Simplement vous dire que, en même temps, ce qui je trouve qu'il y a une convergence de plus en plus forte, y compris avec de plus en plus de mouvements écologistes qui s'intéressent à la question alimentaire, on converge de plus en plus vers des alternatives claires et crédibles, des propositions claires et crédibles pour une autre PAC, d'autres politiques agricoles en Europe et dans le monde, des mouvements écologistes, des ONG de solidarité internationale qui commencent vraiment à changer de discours, enfin, qui ont un discours de plus en plus proche du nôtre, qui rejoignent les campagnes de Via Campesina, etc. Je vous parlais de toutes ces alternatives locales qui, à mon avis aussi, se politisent au sens noble du terme, c'est-à-dire se politisent pas parti politique, mais se politisent au sens où ils rejoignent des propositions politiques, des revendications politiques beaucoup plus claires, assez claires et plus globales, au niveau européen et mondial, qui font qu'en même temps, je trouve qu'il y a un contexte assez porteur pour... pour de futures mobilisations et pour essayer de changer le rapport de force qu'il y a en Europe. Et comme je disais hier à la fin de la table ronde qu'on a eue, c'est que de toute façon aujourd'hui les paysans n'y arriveront pas seuls. parce qu'il y a de moins en moins de paysans, parce qu'il y a de moins en moins de paysans pour un modèle alternatif, malheureusement, parce qu'il y a de plus en plus de petites exploitations, de petites exploitations et de petites et moyennes exploitations. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui, au contraire, sont dans le domaine, dans le modèle dominant. Donc, s'il n'y a pas, je dirais, une réaction du point de vue des citoyens, consommateurs, usagers de la nature, des ONG de solidarité internationale, etc., il n'y aura pas de changement. Voilà. Donc c'est aussi à nous, petit à petit, moi je dis nous parce que je ne suis pas paysanne, mais à avoir une réaction par rapport à ça, à travailler avec les paysans qui croient toujours et qui continuent à porter un modèle alternatif, vraiment de se battre ensemble et de converger à la fois au niveau local, et on essaye de le faire au niveau français et européen. C'est pas facile, mais voilà, je pense qu'en tout cas, c'est pas facile, mais c'est absolument nécessaire. Voilà, je m'arrête là, j'ai été trop longue, voilà, comme d'habitude, mais je vous laisse la parole.
Hala, urtan otziko dugu gaurko, eskertuz eta mil esker handi bat emanez Aurélie Trouvelli, hola, hain erreski eta simpliki esplikatuz gauzak ez direnak beti evidenteak esplikatzeko, hasteko mil esker berari eta baita ere antolatzaileri, hor, Lugamako antolatzaileri. Pastu gauon entzuleak eta ondoko hasteak arte.